Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Nouveau.
Ce soir.
Eh bien, rebonsoir à toutes et à tous, c'est le NRV La Suite avec au programme ce soir du crime. Ça aurait fait plaisir à notre invité de la première heure, Chantal Latsou. Du crime donc, selon Agatha Christie, qui est manifestement increvable. Une revenante. L'année dernière, on fêtait les 40 ans de sa disparition et aujourd'hui, ben, c'est reparti. Vendredi, France 2 fêtera les 10 ans de la série Les Petits Meurtres d'Agatha Christie. 5 millions de téléspectateurs quand même. Mercredi prochain, Arte refait l'enquête sur le meurtre de Roger Ackroyd, ça c'est difficile à dire. Un documentaire signé par le grand reporter Jean-Christophe Klotz, Agatha Christie, manifestement le crime paye, et on en parle ce soir avec nos trois invités. Brigitte Carnel, vous êtes l'auteur d'Agatha Christie, le chapitre disparu, disponible cet été aux éditions J'ai lu. Bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, le documentariste et grand reporter Jean-Christophe Klotz, auteur donc du film Agatha Christie contre Hercule Poirot, qui a tué
Roger Ackroyd.
Bonsoir. Et Sophie Réville, heureuse productrice des Petits Meurtres d'Agatha Christie, la série à succès de France 2. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Alors, who, why, when, how, where et which? Wow. Pour énerver la suite, l'enquête peut recommencer.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et Bedonagan, notre petit enquêteur, qu'est-ce que ça lui inspire tout ça?
Oh, mais je trouve que Agatha Christie ne cesse d'inspirer, d'être rejouée, revisitée. D'ailleurs, les adeptes de la religion Agatha Christienne, les gardiens du temple là, de la reine du crime, doivent attendre décembre avec impatience.
Pourquoi décembre?
Ah oui, ils aiguisent même leurs armes parce que à quelques jours de l'hiver, le crime de l'Orient Express va faire son retour dans une adaptation signée par Kenneth Branagh, le comédien shakespearien et réalisateur à Hollywood. Et ça devrait ressembler à ça.
Je sens quelque chose de malfaisant dans ce train. Un passager est mort.
Seigneur, un meurtre ici.
Le meurtrier est parmi nous. Et chacun de vous est suspect. Et vous, qui êtes-vous? Je m'appelle Hercule Poirot. Et je suis sans doute le plus grand détective du monde.
Je préfère la voix de Denis Carrel. Non mais je vous assure, pour moi Hercule Poirot.
Alors là c'est la voix française de Kenneth Branagh, parce que c'est Kenneth Branagh qui interprète le rôle d'Hercule Poirot et qui réalise ce film. Et il y a un gros casting quand même: Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz, Willem Dafoe, Derek Jacobi, pour grosse production qui va sortir en décembre.
Alors Johnny Depp, il joue quoi? Généralement il joue un pirate depuis des années, il change.
Mais là il joue un des suspects.
D'accord.
Je vais rien révéler. Alors qu'un Anglais soutenu par un gros studio hollywoodien rejoue Christie au cinéma, tout ça est assez logique. C'est pas la première fois. C'est les nouveaux venus dans la production de fiction, vous savez, les plateformes numériques, elles aussi s'intéressent à Agatha Christie. D'ailleurs, en juillet, Amazon a annoncé que 7 romans de l'écrivaine seraient adaptés en série. Témoin indésirable sera le premier adapté. Alors logique, finalement, puisque la télévision, elle a cette bonne vieille télé, et ça fait bien, bien, bien longtemps qu'elle adapte du Christie. D'ailleurs, en France, on a surfé sur la vague. Oui, parce que Hercule Poirot, David Suchet, que vous adorez.
Je l'adore.
Voilà, longtemps, il fait les bonnes heures de la télévision.
Ben ça continue, sur TMC tous les jours.
Oui, ça repasse sans cesse. Excellente audience. Du coup, en France, une productrice, Sophie Réville, vous êtes présente ici.
L'heureuse productrice, voilà. Sophie Réville.
Vous avez décidé que, bah, et pourquoi pas reprendre Agatha Christie et réinventer quelque chose en France. Alors là, vous avez carrément fait fort. Vous avez inventé de nouveaux enquêteurs. Ils s'appellent Larosière, Lampion, Lawrence, une journaliste, Alice Avril, une secrétaire, Marlène, sauf qu'ils rejouent tous des histoires d'Agatha Christie. Comment est née cette idée pour ressusciter la Christie?
Ben, ça n'a pas été facile de convaincre le petit-fils. Hein. Le petit-fils d'Agatha Christie, c'est Matthew Pritchard. Et c'était en 2004, France 2 cherchait un feuilleton de l'hiver. Vous savez, il y avait les feuilletons de l'été, ils avaient envie de faire un feuilleton de l'hiver. Moi, je suis une fan d'Agatha Christie depuis, allez, mes 10 ans. Hein. Je fais partie de tous ces enfants qui ont lu leur premier livre d'adulte. C'était Agatha Christie. On a pris ça dans la bibliothèque de nos parents. Le premier que j'ai lu, c'était Les 10 petits nègres. Ça m'a...
Pareil, c'est bizarre. Ah, hein, pareil. Bibliothèque rose, bibliothèque verte, et ensuite
Agatha Christie. Et après, j'ai continué, je les ai tous dévorés. Je découvrais que le monde des adultes n'était pas ce que je croyais, que les gens mentaient, qu'on pouvait être... voilà. Donc, et cette cruauté, cette... Parce qu'on laisse les enfants lire les livres d'Agatha Christie, alors qu'en fait, ils sont d'une cruauté incroyable.
Donc, comment vous avez convaincu?
Alors, je suis allée à Londres rencontrer Matthew, le petit-fils, qui était le gardien du temple, et je lui ai fait un show un chèque plus tard, oui, pas mal de chèques d'ailleurs.
Ça commençait par un chèque, je me suis dit un chèque.
Non, je lui ai expliqué que pour moi, Agatha Christie, elle était complètement moderne, contemporaine, mais qu'en France, Hercule Poirot, ça marcherait jamais, et que pour passer en prime time en France, il fallait des héros français. Et donc, je lui ai vendu le commissaire Larosière et l'inspecteur Lampion, qui étaient dans les années 30, qui étaient un peu des doubles de Hercule Poirot et Hastings, hein, parce que finalement, c'était ça, le duo. Et puis ensuite, on a fait 10 films. Et puis ensuite, Antoine Duléry a quitté la série. Mmh. Et là, on a convaincu France 2 de continuer dans les années 50 avec des nouveaux héros. Je suis retournée à Londres, j'ai repris mon bâton. Et j'ai raconté donc à Matthew Pritchard le commissaire Lawrence, la jeune journaliste Alice Avril.
Ils ressemblent à qui, eux, donc, ces nouveaux héros des petits meurtres?
Alors eux, ils sont pas du tout, ils viennent pas du tout de l'œuvre d'Agatha Christie. Hein. Lawrence, c'est un espèce de Cary Grant moderne. Hein. C'est plutôt Hitchcock, c'est plutôt la mort aux trousses, c'est l'humour et la classe. Alice Avril, elle est une féministe avant l'heure, hein, la femme moderne dans les années 50. Et d'ailleurs, on a réalisé un documentaire sur les petits meurtres qui passera le 15 septembre, après la diffusion de l'épisode. Et on a organisé une rencontre entre Blandine Bellavoire, l'actrice qui joue Alice Avril, et Matthew. Et Matthew a fait une espèce de déclaration d'amour, Matthew Pritchard, donc le petit-fils, à Blandine Bellavoire, puisqu'il est amoureux de la série, et je pense qu'il est un petit peu amoureux de Blandine Bellavoire, en lui disant, mais en fait, votre personnage de jeune journaliste, féministe, libre, très hyper dynamique, c'est comme ça que j'imagine ma grand-mère jeune. Et donc c'était très touchant, et cette interview est dans le documentaire qui passera le 15 septembre.
Alors moi j'ai une question pour un autre invité, je me demandais, Jean-Christophe Klotz, qu'on vous connaît comme grand reporter à CAPA, spécialiste du Rwanda, qu'est-ce qui vous amène du côté d'Agatha Christie avec ce documentaire?
Alors je vous écoutais, en fait mon cheminement est différent, je ne suis pas parti d'Agatha Christie. C'est un collègue à vous qui s'appelle Christophe Barrère, qui est producteur ici, qui m'a fait lire un essai de Pierre Bayard. Ouais. Sans me dire quoi que ce soit, il me dit « lis ça ». Et donc ce livre s'appelle « Qui a tué Roger Ackroyd ?» Et c'est un bouquin qui m'a passionné. Alors, c'est pas spécial. Enfin, du coup, j'ai redécouvert le roman, parce que j'avais dû le lire, mais il y a très longtemps. Et en fait, ce qui m'a passionné, donc est-ce que je résume un petit peu pour les gens qui connaissent pas le meurtre de Roger Ackroyd, c'est un livre assez étonnant où, c'est dommage, tout le monde le sait maintenant.
On peut spoiler, de toute façon, quand on va voir le documentaire,
si
on l'apprend dès le départ.
Plume, voilà. Il ne faut jamais dire.
Non mais là, on peut le dire. Voilà. Alors,
La célébrité du roman vient du fait que c'est le narrateur qui est l'assassin. Et donc, à l'époque, c'était
une révolution. En fait.
Voilà, c'était quelque chose. On l'a même accusé d'avoir triché, de ne pas avoir respecté les codes du genre.
Les codes du genre.
Voilà. Et donc, non seulement c'est assez passionnant de relire le livre une fois que l'on sait ça, parce que le livre prend une autre dimension, et donc c'est ça qui m'a intéressé. Mais de plus, Pierre Bayard pousse si vous voulez, le raisonnement. Il arrive à prouver que Poirot s'est trompé, que l'assassin n'est pas le narrateur. Donc moi, ça m'a passionné. Alors le rapport avec ce que je fais habituellement, c'est que...
Grand reporter au Rwanda et aujourd'hui...
Oui,
donc...
non, mais moi, ce qui m'intéresse depuis plusieurs années maintenant, c'est la narration. C'est les principes de narration. C'est qu'est-ce qu'un récit? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à faire croire des choses abracadabrantes aux gens, que ce soit en politique ou... je ne vise personne. Mais c'est vraiment cette dimension politique qui m'a passionné. Et le documentaire, comme le bouquin de Bayard, c'est une proposition, on propose une lecture subversive en fait de la littérature policière.
Et vous revenez sur un épisode, à partir de ça aussi, vous revenez sur un épisode très énigmatique de la vie d'Agatha Christie, c'est-à-dire le moment où elle disparaît pendant plusieurs jours. Il y a un accident de voiture, elle disparaît, on pense qu'elle a été enlevée, on pense aussi que c'est juste de faire de la pub pour le prochain roman qui devait sortir.
Qui était justement celui-là.
Qui était justement celui-ci. Mmh. Donc il y a une sorte de perméabilité entre ce roman-là et puis cet épisode-là. Mmh. Et vous, de votre côté, Benoît Lagan ?
Benoît.
Oui.
Benoît
Lagan. Oui, moi je voulais vous poser la question, Brigitte Carnal, vous qui connaissez très bien l'univers d'Agatha Christie, vous avez même écrit un roman, vous avez pris la plume d'Agatha Christie, vous avez raconté voilà. Comment vous regardez ces deux expériences-là qui font revivre Agatha Christie ou qui travaillent à Agatha Christie de façon très différente dans les deux cas?
C'est pas du tout la même chose. Hein, le travail de vos deux invités, effectivement, là on est dans la reconstitution d'histoire avec de nouveaux personnages et de l'autre côté, on est dans un documentaire. Moi, ce qui m'intéressait dans Agatha Christie, c'est, vous en parliez à l'instant, c'est le fameux chapitre disparu. J'avais vraiment envie de comprendre comment, justement, vous parlez de perméabilité, c'est exactement ça. Comment la fiction, alors là, on peut se rejoindre effectivement tous les trois, comment la fiction, à un moment, peut rejoindre la vie réelle, comment ça peut s'amalgamer d'une certaine manière pour nous donner un scénario. Puis je pense que cette histoire de disparition, finalement, a à voir avec le travail d'Agatha Christie, c'est-à-dire qu'elle nous propose d'une certaine manière, si on part de l'hypothèse qu'elle n'était pas amnésique, mais qu'effectivement
peut-être qu'il faut rappeler un petit peu l'histoire.
Alors donc en 1926, Agatha Christie a 36 ans. Son mari la trompe, Archibald, avec sa jeune secrétaire, les théières volent, les carafes, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Agatha Christie n'est pas la vieille dame qu'on voit sur les photos et dans les journaux bien plus tard. C'est une jeune femme, mais qui commence un petit peu à être ronde à 36 ans. Bon, elle n'était pas du tout, mais elle l'imaginait bien sûr. Elle pense ne plus plaire à son mari. Son mari lui annonce qu'il veut divorcer. Et là, elle pète un câble, quoi. C'est vraiment le mot qu'il faut employer. Comme on ne la voit pas dans ses livres finalement, parce que c'est toujours très pondéré, hein, bien sûr, l'écriture d'Agatha Christie. C'est un peu, elle a beaucoup influencé Ruth Rendell, puisque on peut parler aussi de l'influence d'Agatha Christie sur les autres auteurs, notamment anglais. Cette femme très pondérée, donc, devient effectivement complètement... folle, elle sort les griffes, quoi, en gros, pour récupérer son mari. Et donc, elle va disparaître pendant 11 jours. Elle prend sa bagnole et se barre, quoi.
Ouais. Elle a un accident. Enfin, il y a un accident.
Alors voilà, première question, c'est la première énigme. Effectivement, elle a un accident. Je suis allée à Silent Pool, j'ai refait tout le chemin.
Vous n'êtes pas la seule dans le documentaire aussi.
Oui, moi j'ai eu l'impression, enfin j'ai pas fait d'image bien évidemment, mais je suis allée dans le sujet et j'ai trouvé que c'était absolument fascinant. J'ai loué une chambre à Harrogate à l'hôtel où elle était, marché dans les couloirs en pente qui grincent, fréquenté les salons et joué au billard. Et j'ai trouvé que... on en était où là? Je suis en train de partir dans tous les sens. En était à la disparition. Oui. Donc voilà. Donc revenons en arrière, avant d'atterrir dans cet hôtel, elle prend sa voiture, elle fonce, elle laisse toute sa famille derrière. Elle, son enfant, sa petite fille, Rosalind, son mari, et elle atterrit. Là, on va faire une ellipse, puisque c'est la reine de l'ellipse, Agatha Christie. Elle atterrit dans un étang, Silent Pool, double étang en forme d'aile de papillon. Et on retrouve la voiture le lendemain, elle n'est plus dedans.
Avec des traces de sang.
Il y a des traces. Alors. On n'est pas sûr de ça non plus. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des morceaux de vêtements, enfin des vêtements qui sont à l'intérieur, sa carte d'identité, un poudrier dans une petite cabane un peu plus loin. Et donc ça, c'est sûr, hein, c'est avéré. Et il faut imaginer ce qui s'est passé. Agatha Christie étant tellement mal, elle était en fait en dépression à l'époque. Elle a vraisemblablement monté sa dernière énigme avec une copine. Elle avait une amie à qui elle avait dit « on fera ça ensemble si... si jamais Archibald continue, méfiez-vous, messieurs. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Alors, vous imaginez, quand quelqu'un disparaissait, c'était... Mais toutes les hypothèses sont possibles. Mais celle-là est franchement la plus probable.
Et donc, on la retrouve dans un hôtel.
Alors, on la retrouve pas tout de suite.
Non,
il se passe
11 jours.
Il y a des affiches absolument partout dans Londres. Enfin, on n'imagine pas. Ça a été un truc, mais un délire, quoi. On peut imaginer si Valérie Trierweiler avait disparu quand François Hollande... ça donne ce truc de dingue, c'est-à-dire que tout à coup, toute la France, toute l'Angleterre, la France, l'Italie, tous les pays deviennent complètement accro à cette histoire et ça devient un feuilleton, un véritable feuilleton dans les journaux. Il y a des affiches dans Londres, partout, on sonde les étangs, 10 000 hommes sont dépêchés.
Ça commence à coûter très cher d'ailleurs, le fait que...
Voilà, ça finit par coûter très cher. Donc, M. Archibald de Christie va tout faire pour la retrouver. Il va aller voir une voyante. Enfin, c'est vraiment un scénario absolument hallucinant. Donc moi, j'ai fait ma petite enquête là-bas, hein. Je suis allée dans la maison, j'ai rencontré les vieilles dames qui ont travaillé là, le jardinier venait de passer à la retraite. C'est génial, quoi. C'est vraiment une histoire...
Vous l'avez fait aussi ?
Le reporter que vous êtes. En fait, cette histoire, est comme vous dites, c'est un feuilleton.
C'est génial comme histoire.
Depuis cette époque-là, en fait, il y a eu tellement d'hypothèses. Mais c'est vrai que j'aime bien celle qu'avance l'historien dans notre film. où il dit finalement, c'est ça, elle a monté une machination comme une énigme, comme elle faisait dans ses bouquins,
mais cette fois au départ,
qu'ensuite, le coup de l'amnésie, ce serait qu'il ne savait pas comment s'en sortir. Il fallait qu'il trouve une solution pour, parce qu'il y avait tellement d'argent dépensé, etc. Donc c'est
une hypothèse. Elle invente le fait qu'elle ait été amnésique pour pouvoir expliquer la situation.
Oui, mais elle se met peut-être même d'accord avec son mari, en fait. Oui, c'est ça que je trouve assez passionnant.
Ce qui est dingue, c'est qu'après, pendant 2 ans, elle est allée voir des spécialistes, les psys de l'époque, pour justement se guérir de sa fameuse amnésie temporaire. C'est complètement dingue, parce que l'histoire a continué.
Oui. Et nous aussi, on va faire une pause, une ellipse, à 23h31, dans le NRV sur France Inter. Retour 1989, Bachung n'avait pas le moral et ça s'entend sur ce titre plus Cold Wave, Tu meurs, une programmation qui tue, celle de Jean-Baptiste Audibert. Rendez-vous.
What is your method, they want to know?
Rendez-vous.
Well, the disappointing truth is that I haven't much method.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
C'était la voix d'Agatha Christie et elle disait « Mes amis demandent comment je travaille, est-ce que j'ai une méthode ?» La vérité, c'est que je n'en ai pas. C'est un peu comme chez nous, manifestement. Ce soir, on parle d'Agatha Christie pour son grand retour, notamment à la télévision. Agatha Christie, on en parle avec Brigitte Kernel, le documentariste Jean-Christophe Klotz et la productrice de fiction télé Sophie Réville, à qui l'on doit les petits meurtres d'Agatha Christie. Est-ce qu'il y a un cahier des charges, d'ailleurs, quand on réinvente comme ça de nouvelles aventures d'Agatha Christie dans les années 50 et dans les années 30? Il y a un cahier des charges qu'on
doit respecter ? Alors non, aucun cahier des charges. C'est la force du petit-fils, hein, Mathieu Potchard, c'est qu'il nous a laissé totalement libre, carte blanche. Donc nous, on rajoute de la comédie, puisque ce sont des comédies policières. Hein, nos héros se disputent. C'est vraiment... tout ça, c'est pas dans les romans. On rajoute des meurtres, puisque les romans d'Agatha Christie, bah, généralement, il y a une très longue introduction pour installer tous les personnages, le fameux whodunit, puis après, il y a un meurtre, puis après, il y a Poirot qui récapitule pendant des pages et des pages et des pages.
C'est pas très télévisuel.
C'est pas du tout télévisuel. Donc, nous, on rajoute deux ou trois meurtres, généralement.
C'est pas très télévisuel, mais ça marchait quand même avec Hercule Poirot, qui passe sur TMC.
Et oui, mais parce que c'est la reine du jeu, Agatha Christie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, elle serait une scénariste géniale. Elle serait sans doute une scénariste américaine, multiprimée. Hein. Elle a le génie des mécaniques policières. Ouais. Bon, on a parlé de celle de Roger Ackroyd, mais il y en a d'autres. Elle a inventé, par exemple, l'assassin qui invente un serial killer pour cacher son meurtre parmi les meurtres du serial killer. Ça, c'est les meurtres ABC. Sébastien Japrisot, compartiment tueur, l'a refait 30 ans plus tard. Je dis pas qu'il a copié, mais elle l'avait inventé avant lui. Elle a inventé la victime, qui est en fait l'assassin. Ça, elle l'a fait plusieurs fois. Enfin, c'est le fameux whodunit où elle invite, elle met les cartes sur la table et en fait, elle invite le lecteur et le spectateur, et c'est ça que nous, c'est pour ça qu'on s'amuse, à jouer. Et c'est une des rares quand même à être aussi ludique.
D'autant plus ludique qu'on l'apprend, enfin moi je ne le savais pas, mais on l'apprend dans votre documentaire, Jean-Christophe Klotz, le fait que quelquefois même en commençant, elle ne savait pas, elle connaît la victime, mais elle ne sait pas qui est l'assassin.
Oui, alors c'est François Rivière qui dit ça, qui connaît très bien son travail. Ça me paraît évidemment possible, ça lui permet de laisser toutes les options ouvertes. Mais c'est vrai que... Alors parler de c'est une certaine perversité de réussir à trouver toutes ces mécaniques, tous ces trucs insensés. Mais c'est évidemment un personnage extrêmement inspirant en fait, parce qu'il y a un tel décalage entre l'image qu'on a, comme vous avez dit tout à l'heure, les photos d'elle plus âgée,
c'est celle qu'on voit toujours.
Voilà,
alors qu'elle dansait le Charleston, c'était une jeune femme de son époque, ce qu'on apprend dans votre documentaire.
Mais elle a une malice et je pense qu'il y a une certaine perversité. Oui, ça, c'est incroyable.
C'est quand même une femme qui a divorcé. Alors certes, son mari l'avait trompée, mais à l'époque, même quand votre mari vous trompait, vous divorciez pas.
Elle était très indépendante.
Elle a divorcé, elle a élevé seule sa fille. Oui. Ensuite, elle a épousé un homme qui avait 20 ans de moins qu'elle. Donc c'était Brigitte Macron avant l'heure, un archéologue qui l'a emmené autour du monde.
Présidence.
Non, mais quand on regarde sa vie, c'est quand même c'était elle le soutien de la famille.
Entre Trier-Veller et Macron, j'avoue que là,
moi je pense qu'il y a quelque chose du besoin qu'elle avait de contrôler les choses. En fait, alors quand elle était petite, on dit qu'elle jouait beaucoup avec des figurines, qu'elle se racontait des histoires. Donc visiblement, elle voulait pas qu'elle voulait prendre sa vie en main et du coup jouer avec celle des autres.
Mais quand elle était petite, elle le raconte dans son autobiographie. Hein, elle écrit un gros bouquin qui fait au moins 600 pages au livre de poche. Elle raconte toute cette histoire là. Quand elle était donc petite, elle jouait, elle avait des figurines, elle les mettait en scène. Elle se sentait pas bien dans le monde réel. Elle avait des angoisses absolument épouvantables après avoir rencontré un homme. Alors vous me reprendrez si je me trompe, mais l'homme donc dont elle a jamais su le nom, qu'elle appelait Gunman, de revolver. Et cet homme donc rencontré dans un champ, il était avec une carabine. La gamine arrive et il lui dit propriété privée ici. Et à partir de ce moment-là, elle s'est mise à avoir peur de tout. Elle a eu des angoisses terribles. Elle faisait des cauchemars. Et l'écriture a été pour elle la manière. Là, c'est le côté psy, la manière de sortir de ses angoisses, de ses terreurs, de tout ce qui lui faisait peur la nuit, qui la réveillait en sursaut. Donc sa mère l'a beaucoup poussée là-dedans pour essayer de la sortir de tout ça. Et elle raconte un petit peu ces choses aussi, j'en parlais à Sophie Reville, dans les livres qu'elle écrit sous le nom de Marie-Vesse Macott, où on la semble beaucoup plus sensible. C'est quelqu'un qui est à fleur de peau, qui n'est pas forcément heureuse. Elle se met dans la peau d'héroïnes qui sont assez fleurs bleues finalement et un peu tristounette, oui.
Quel est le scénario le plus pervers qu'elle ait imaginé, d'après vous ?
Alors, moi, je connais pas suffisamment toute son œuvre, mais en fait, à l'intérieur de tous les bouquins que j'ai lus, il y a des mécanismes qui sont très acrobatiques, on va dire, et puis d'un point de vue psy, tordu.
C'est un régal.
Mais très vrai. Enfin, je pense qu'elle avait une connaissance. Alors, je fais le parallèle avec Hitchcock à un moment.
Il y a
de ça, c'est-à-dire que dans son petit coin d'Angleterre, je sais pas comment elle s'est débrouillée, mais elle a une connaissance de l'âme humaine assez incroyable, sans avoir été au Rwanda ou ailleurs. Donc, et Hitchcock avait la même chose.
Elle avait aussi. Elle a le génie des personnages aussi. Les meurtres ABC dont je parlais, elle invente quand même ce personnage d'un homme blessé à la guerre de 14 qui a un éclat d'obus dans le crâne. Et qu'est-ce qu'il fait comme métier? Il est vendeur de bas. Et donc nous, on a adapté ce roman dans la première saison avec La Rosière et Lampion. On a casté Denis Lavant, qui était... Moi, je pense que c'est son meilleur rôle. Meilleur que tous les films qu'il a incarnés au cinéma. Et il est ce vendeur qui ouvre sa valise et qui déploie les bas devant les femmes. Et il est accusé d'être le fameux serial killer. En fait, il est une victime puisqu'il n'a pas commis les meurtres. Elle a inventé quand même une petite fille antipathique, faut oser. Un enfant qu'on tue, donc c'est la fête du potiron. Une petite fille qu'on tue, mais elle était tellement antipathique.
Tout le monde est bien content de s'en débarrasser.
Forcément.
Mais sa connaissance de l'âme humaine, elle vient aussi du fait qu'elle était infirmière pendant la guerre et qu'elle ait soigné des blessés de tout milieu, de toute souche sociale, de toute origine. Et donc, elle avait beaucoup d'empathie pour les gens. Elle parlait beaucoup avec eux et elle a dû apprendre énormément au contact de ces gens qui étaient donc en grande souffrance, en détresse et au bout du bout. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui lui a permis de, sans le savoir à l'époque, d'approcher justement ce qu'on appelle, entre guillemets, l'âme humaine.
Benoît, mais sur le rapprochement entre Christie et Hitchcock, vous en parliez, Jean-Christophe Clauss, votre série, justement, c'est ça, c'est la mise en scène d'Agatha Christie à la façon de Hitchcock.
Absolument, absolument. C'est vrai que j'ai pu réunir mes deux passions, parce que j'ai une passion pour Hitchcock et j'avais une passion enfant pour Agatha Christie. Et c'est vrai qu'on a, par exemple, dans Les Petits Meurtres, on tourne les scènes de voiture en rétroprojection dans des studios à la façon d'Hitchcock, comme il faisait dans La Mort aux Trousses, c'est-à-dire qu'on fait défiler un film dans Psychose. On joue avec les... Voilà, on emmène les gens dans une nostalgie des années 50 et 60. Et puis, il y a cette façon de jouer. C'est le côté joueur, en fait, qu'avait Hitchcock aussi. C'est-à-dire de considérer le crime comme quelque chose, finalement, d'assez joyeux et d'assez amusant.
Et vous êtes d'accord avec ce rapprochement, Brigitte Carnel, sur les deux univers d'Hitchcock et Christie?
Je trouve que c'est deux univers différents, mais je comprends ce que vous voulez dire. C'est vrai qu'on peut, mais on peut finalement associer plusieurs d'autres. On pourrait, par exemple, on pourrait prendre Hammett et associer aussi à Agatha Christie. Il y a comme ça des auteurs de polar où ils ont été tellement inspirés eux-mêmes par Agatha Christie que là, bon, finalement, ça colle super bien. Hitchcock, oui. Puis pour les images. Parce que dans la série, effectivement, quand on voit la voiture en rétro comme ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment le rêve. Mais je crois qu'effectivement, ça doit être pour vous, Sophie Rebin, un hommage un peu à votre enfance, parce qu'il y a du jeu là-dedans aussi, avec les images, la mise en scène.
On quitte l'Angleterre avec une Belge. Elle est belle, elle chante au-delà du jazz. C'est Mélanie DiBiaso en live très bientôt dans le NRV. Et d'ici là, pour patienter, c'est Gold Junkies tout de suite. Nature in the other way, nature ours anew. temps passe, la nuit avance, 23h45 dans l'ENRV sur France Inter.
A new rendezvous.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs.
Vous êtes qui, vous ?
Laurent Goumard.
Moi, Hercule Poirot. Je sais maintenant, sans l'ombre d'un doute, qui a tué.
Rendez-vous. Encore un assassinat.
Commissaire Laurence.
Sur France Inter.
Il se pourrait bien que ce soit notre homme.
Alors, deux Hercules pour le prix d'un. On avait Peter Ustinov et bien sûr David Suchet. Quel est le comédien qui, selon vous, a le mieux incarné Hercule Poirot?
J'ai l'impression d'avoir lancé une énigme totale.
Moi, j'aime beaucoup ce... Alors, Suchet ou Suchet ou...
Oui, oui.
J'aime beaucoup, oui, ouais. oui. Comme vous, je crois.
De votre côté?
Je crois que je les aime tous, finalement. Parce que ça représente des époques différentes. Ouais, je parle du tournage, hein, c'est pas... J'ai du mal à comparer ce que faisait, justement, toute cette époque, Ustinov, etc. Et ce que fait Sophie Réville. Parce qu'on est... On raconte la même époque, mais c'est pas fait par la même main, ouais. Par le même œil.
Ça fait
rêver. Moi, j'adore Suchet, comme vous, parce que il a un côté complètement ridicule.
Ah,
et c'est ce qu'elle a écrit. C'est-à-dire un anti-héros. Elle a inventé ça aussi. Oui. L'anti-héros avant l'heure. Parce qu'on parle de Columbo, l'anti-héros. Mmh. Et puis aujourd'hui, bon, les anti-héros, c'est le suc de toutes les séries américaines. Mais elle a inventé le anti-héros. Parce que Poirot, avec sa brillantine, avec ses chaussures vernies, qui lui font mal aux pieds.
Sa suffisance.
Il est grotesque. Et Suchet, il a assumé ça. Ouais. Et il l'a vraiment joué. Alors que Ustinov a un côté plus flamboyant. Pour moi, c'est pas tout à fait Poirot.
Ouais, je vous dis, moi, c'est pas la même époque. J'aime bien aussi la façon dont c'est fait. Quand je pense à Mort sur le Nil et que je vois Hercule Poirot dedans, il y a un côté très ancien. Je vois un film ancien, en fait. Voilà, c'est ça la différence. Mm-hmm. Quand je vois vos films, je vois quand même quelque chose de contemporain, une Agatha Christie contemporaine, revenue de nos jours et qui raconte une histoire. C'était une femme moderne. Et on la voit dans vos films. Avec Peter Ustinov, on est dans un temps différent.
Avec Peter Ustinov, ce qui était génial, c'était Peter Ustinov, mais c'était surtout tout un film choral. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois... Jane Birkin, il y avait Louis Chiles, enfin, c'était vraiment génial pour ça. Avec David Suchet, c'est autre chose, c'est vraiment lui le centre. Et même s'il y a des guests que l'on peut reconnaître, c'est pas vraiment le centre d'intérêt de la série. Benoît.
Oui, Brigitte Cardinal, quel rapport elle entretenait avec ses personnages? Parce que là, on disait qu'Hercule Poirot, elle le ridiculise, mais même Miss Marple, elle est pas très tendre avec.
Bah, je sais pas, je me demande finalement si elle ridiculisait pas les gens qu'elle aimait. Parce qu'Hercule Poirot, elle l'aimait bien. Je pense pas qu'elle l'ait détestée ou qu'elle se soit moquée.
Elle a cherché quand même à le faire disparaître plusieurs fois. C'est ce qu'on apprend dans le documentaire.
Oui, mais ça, c'est parce qu'elle lui a arrêté d'écrire. Alors, ça, c'est autre chose.
Oui. Non, mais ça le rend humain, le fait qu'il soit grotesque. C'est justement ce qui le rend humain. C'est ce qui le rend absolument
tendre. On l'aime, tendre.
Donc,
son côté ridicule nous
émeut. Ça.
Voilà.
Oui, Jean-Christophe Klotz.
Non, il vous aime pas en tant qu'humain. Oui.
Le sort de Hercule Poirot, Laurent a cru voir dans votre film.
Non, c'est-à-dire...
Elle le dit.
Elle le dit.
Ben, on lui pose la question.
Comme elle disait à propos de son roman, elle disait « Relisez mon livre, revoyez le film ».
C'est ce que je vais faire. Voilà. Je vais revoir le documentaire. Alors, le documentaire est intéressant parce qu'il développe une sorte de scénario bien tordu, Benoît Lagan.
Oui, mais si donc Hercule Poirot s'était trompé dans l'affaire Roger Ackroyd, alors on va écouter un bout de votre documentaire.
D'après le texte, Shepard doit se trouver à 21h précise devant le portail d'entrée le soir du crime. Il a donc 10 minutes pour maquiller le meurtre. Poirot affirme que durant ces 10 minutes, Shepard a eu le temps de chausser les chaussures qu'il aurait volées à Ralph Patton pour imprimer ses empreintes autour du bureau de Roger Ackroyd, qu'il est ensuite revenu dans le bureau pour y laisser quelques autres empreintes, le fermer de l'intérieur, il est ressorti. Il a remis ses propres chaussures avant d'aller remettre celles de Patton à leur place. Shepard doit encore foncer à la grille du parc. 22 minutes 35. Bref, ça ne tient pas la route.
C'est implacable. Implacable, Jean-Christophe Klotz.
Non, mais on fait du Hercule Poirot à notre manière.
Mais oui, tout à fait. Donc vous avez vraiment minuté.
Ah ben, on a fait une. En fait, juste avant cette scène, on rencontre un commissaire de police, un vrai. Et on lui demande ce qu'il pense, lui, des arguments de Poirot. Et au départ, lui, il dit qu'en tant que lecteur, il est
bon lecteur. Et
voilà, mais en tant que flic, il dit effectivement, il y a des trucs. Il dit quand on a un doute, on fait une reconstitution. Donc c'est ce qu'on a fait.
Pour prouver que peut-être donc, le narrateur n'est pas l'assassin du meurtre de Roger Ackroyd.
Oui, ces incohérences, il y en a dans tous ses romans. Quand on décortique,
Sophie
et nous
Réville.
On le fait quand on adapte, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. C'est-à-dire que la mécanique d'ensemble.
Il faut refaire les enquêtes.
Alors. Mais ouais. Non, mais la mécanique d'ensemble.
C'est ce qu'elle fait.
La
c'est
mécanique vrai, d'ensemble, vrai, c'est génial. Mais nous, avec les scénaristes, on se creuse la tête pour refaire tenir debout les raisonnements qui, franchement, quand on les met à l'image, en plus, et quand effectivement on est obligé de montrer le trajet du meurtrier et tout pendant la résolution, ça tient pas. Mais ça, c'est dans la majorité des romans.
Ça me donne l'idée
d'une série.
Mais
en fait, quand on lit, on s'en fiche. Oui. Mais on s'en fiche. Ce qui est important, c'est le jeu du who's done it, c'est de faire les suppositions les unes après les autres.
Brigitte Carnel, vous qui vous êtes mis dans la peau d'Agatha Christie.
Mais moi, j'ai eu le même problème en écrivant mon livre. C'est-à-dire que je me suis posé la question de ce qui était cohérent et incohérent. Et comme j'essayais de me mettre dans sa voix avec beaucoup d'humilité, le problème que j'avais, c'est qu'à un moment, si je voulais rendre des incohérences, il fallait qu'effectivement, je lui fasse vivre des choses un peu incohérentes. Donc, le principe même est très difficile. Je pense qu'elle avait beaucoup de mal aussi à rendre, comment dire, son énigme possible en mettant aussi. Mais elle fait tellement d'ellipses aussi. C'est ça qui rend les choses incohérentes. Par moments, on se dit, c'est pas possible ce qu'elle fait là avec son assassin ou ce qu'elle fait là avec son enquêteur. Et finalement, elle arrive à nous retourner. Et puis, il y a des lectures, ce que vous dites dans le documentaire, il y a plusieurs lectures possible chaque fois. Donc l'incohérence qu'on peut avoir peut être une chose très cohérente à l'envers.
Au niveau du style, puisque vous êtes mis dans la peau d'Agatha Christie, qu'est-ce que vous avez repéré de son style littéraire ?
Alors c'est compliqué, parce que c'est compliqué, c'était certainement pas compliqué pour elle, c'est une écriture qui est déjà un peu ancienne, qui est un peu désuète. Donc il y a eu différentes traductions quand même, des livres d'Agatha Christie, Le Masque a fait traduire une fois, deux fois, etc., etc. Et effectivement, chaque fois c'est un petit peu dépoussiéré. C'est un peu poussiéreux parce que c'est l'époque, oui. Bien évidemment. Ce que j'ai retenu, c'est qu'effectivement, on voit que par moments, elle dicte à sa secrétaire, il y a des onomatopées, pan, allez hop, avec un point d'exclamation, elle avance dans le texte. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est qu'elle veut rester extrêmement élégante. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette espèce de bourgeoisie anglaise qui est là, qui roule, c'est huilé. Jamais elle ne se permet de partir un petit peu en dérive et en étant un peu plus populaire, quoi. Et ce qui est étrange, parce que c'est quand même des histoires assez populaire finalement. Pour le public, on aime tous lire Agatha Christie, on l'a tous lu, et pour un roman populaire, il a une langue qui n'est pas très populaire. Ça, je trouve ça assez incroyable, et on marche chaque fois.
Vous qui avez relu plusieurs fois, donc pour faire votre documentaire Le meurtre de Roger Ackroyd, est-ce que vous en avez lu d'autres pour justement alimenter ce que vous êtes en train de démontrer dans votre documentaire, Jean-Christophe Klotz?
Non. Enfin oui, j'en ai lu d'autres, mais pas durant la préparation. Je me suis vraiment concentré
sur ce livre-là,
sur ce livre, sur la mécanique, et puis sur le propos de voilà cette invitation. Si vous voulez, moi mon propos de fond, alors on quitte un petit peu Agatha Christie, mais c'est de dire que la littérature policière classique, elle est coercitive. C'est une littérature policière, c'est-à-dire que il y a une vérité qui existe avant même qu'on ouvre le livre, et puis on amène le lecteur petit à petit, en sélectionnant des indices, un discours, on l'amène à la dernière page où on lui dit c'est comme ça, c'est pas autrement. Et là, ce que j'ai trouvé passionnant, c'est de dire bah si, et si
c'est
c'était
comme ça,
autrement.
Et ça peut être autrement.
Et ça peut être autrement, ouais. Aussi. Donc c'est ça le fond du film, en fait.
Ce mécanisme-là, vous l'avez déjà mis en place dans une série, enfin dans un des épisodes des Nouvelles Aventures d'Agatha Christie,
Les Petits Meurtres. C'est-à-dire que le narrateur soit le coupable?
Ouais.
Non. Il y a un certain nombre de romans dont on n'a pas les droits. Elle a écrit 66 romans, on a 80% des romans, mais par exemple, Le meurtre de Roger Ackroyd, on n'a pas les droits. Le meurtre sur le Nil, Le crime de l'Orient Express, il y a un certain nombre de romans qui sont réservés en fait par des studios américains.
Pour cette raison, d'accord. Ouais. Dernière question, Benoît.
Oui, mais alors, est-ce que c'est justement le fait que Agatha Christie casser un petit peu les codes de la littérature policière, qu'elle a été mal perçue quand elle est arrivée avec son nouveau type de roman?
Forcément.
Comment elle a été perçue, justement?
Forcément. Toute une partie des lecteurs hurlait, ce que vous disiez tout à l'heure, à la tricherie, parce que tout à coup, elle était dans un autre processus. Elle truquait un petit peu le système qui, avant, c'était qui a fait quoi. Après, elle a inventé qui a fait quoi, pourquoi. Et là, ça lui a ouvert une porte absolument incroyable. Elle pouvait partir dans d'autres directions, ouvrir des chemins nouveaux. Et à ce titre, elle a influencé vraisemblablement beaucoup, beaucoup d'auteurs. Quand vous voyez que Houellebecq, par exemple, dit, il y a eu quelque chose dans l'Express il y a quelques années, où Houellebecq disait, moi j'ai été d'une certaine manière influencé, Houellebecq, par Agatha Christie, parce que je l'ai lu quand j'étais enfant. Et non, ce n'est pas de la littérature de gare, c'est de la vraie littérature. Ou Amélie Nothomb peut vous dire aussi, je suis une grande fan d'Agatha Christie. Vous lisez Son Barbe Bleue, je prends au hasard un roman actuel,
actuel, contemporain. Vous lisez Barbe Bleue et vous vous dites que vous êtes entre le conte de Perrault et Agatha Christie. Le huis clos, la résolution à la fin, la psychologie, on est dedans.
Oui, donc, parce que quelque part, le crime n'est qu'un prétexte pour explorer la noirceur de l'âme humaine, hein, toujours pour elle.
Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci à vous trois. Brigitte Kernel, je rappelle qu'Agatha Christie, le chapitre disparu, est disponible aux éditions J'ai lu. Jean-Christophe Klotz, Agatha Christie contre Hercule Poirot, qui a tué Roger Ackroyd, ce sera sur Arte le 6 septembre prochain. Et Sophie Réville, Les petits meurtres d'Agatha Christie, fait son retour vendredi avec en bonus un documentaire sur les coulisses et l'histoire de la série. Merci à vous trois. Alors, on a connu Benjamin Sportes, siffloteur chez Sporto Cantès. On le retrouve déguisé en Futuro Pélo. Bizarre, mais c'est comme ça. Toujours aussi doué pour les gimmicks.
Que s'est-il vraiment passé pendant 2 heures ?
En fait, je me sentais inutile si je ne faisais pas rire, je me souviens.
Est-ce que vous accepteriez de faire la vache ?
Donc j'avais une espèce de pression comme ça où il fallait que je fasse rire.
Mais elle a eu un succès bœuf.
Le problème, c'est qu'on dort avant la fin.
J'ai touché l'épaule d'Elisabeth Taylor. Il y avait Burton, Brando...
C'est pas du tout télévisuel. Donc nous, on rajoute 2 ou 3 meurtres, généralement.
Bonjour, cette jeune fille doit avoir un rôle dans mon film.
On peut imaginer si Valérie Trier-Valeur avait disparu quand François Hollande...
Nous ne regretterons pas d'être venus.
Nous ne regretterons pas d'être venus, nous non plus. Le NRV, c'est fini pour aujourd'hui. Bien sûr, je vous encourage à nous réécouter, à podcaster l'émission, à nous suivre sur Facebook et Twitter avec le hashtag NRVFI, ne serait-ce que pour la réalisation de Jérôme Boulet et Juliette Bédevielle, ou pour la préparation de Virginie Rouzig, Corinne Valente et vous, Benoît Lagan. Demain, on se retrouve 22h minuit et on sera là avec ça.
Cendrillon pour ses 20 ans et la plus jolie des enfants, son bel amant.
C'est vrai, c'est un peu énigmatique. Pourquoi Cendrillon ? Parce que demain, on reçoit le chorégraphe Thierry Malandin et l'écrivain Éric Reinhardt, et ils ont ça en commun. Dans le NRV, la suite, rentrée sociale, la loi travail en marche et les travailleurs dans la rue. Voilà, tout est dit. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir. À demain.
Rendez-vous.
Il est minuit, vous l'avez entendu, sur France Inter.